VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 février 2016. Avec vous de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Niger, le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, se rapproche de la victoire.
Au Mali, deux militaires tchadiens ont été abattus par un soldat à Kidal.
L'Éthiopie accuse l'Érythrée d'être derrière les manifestations antigouvernementales dans la région de l'Oromia.
Vive tension à Bruxelles entre les pays de l'Union européenne concernant la gestion de l'afflux de migrants.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Dans l'actualité africaine, au Niger, le décompte des bulletins de vote continue. Le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, qui brigue un deuxième quinquennat, est toujours en tête et se rapproche d'une victoire au premier tour à l'élection présidentielle du 21 février, face à une opposition qui dénonce des fraudes et se prépare à rejeter les résultats du scrutin. Notre envoyé spécial, Nicolas Pinault, est sur place.
Oui, depuis jeudi, les choses se sont accélérées. La Commission électorale nationale indépendante a mis les bouchées doubles. Ce matin, nous avons 244 communes de révélées sur les 308 de ce scrutin. Le taux de participation s'établit à 67,16% selon le site internet tant décrié de la Commission électorale nationale indépendante. Les tendances sont toujours les mêmes. Le président sortant Mahamadou Issoufou serait en tête avec 46,66% des résultats, largement en tête devant le second de ce scrutin, Ama Amadou, qui totaliserait 19,46% des voix. Le troisième, Seyni Oumarou, 12,12% des suffrages. Oui, mais voilà, ce site internet est très critiqué. Je le disais, la COPA, la Coalition pour l'Alternance 2016, a tenu un point de presse hier avec de nouvelles revendications, notamment la demande d'arrêter ce site internet qui ne correspondrait pas aux engagements pris avant le début du processus électoral. Autre demande de la part de la COPA, que les procès-verbaux des bureaux de vote soient affichés et comparés avec ceux au niveau communal ou régional. Et la COPA qui menace, elle pourrait rejeter l'intégralité des résultats qu'elle affirme grotesques. Ce vendredi, enfin, la Commission électorale nationale indépendante devrait livrer son verdict provisoire. Et Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Au Mali, deux militaires tchadiens du contingent onusien à Kidal sont morts, assassinés par un de leurs camarades soldats. Désaccord avec la hiérarchie et conditions de vie difficiles auraient motivé l'incident meurtrier. Des détails avec Eric Manirakiza.
Un chef d'unité et un médecin militaire sont les deux victimes du soldat mutin. Selon une source à la MINUSMA, la tension était vive hier à Tessalit, au nord de Kidal. Les rapports avec la hiérarchie au sein du contingent tchadien sont à l'origine du mécontentement du mutin. Ce n'est pas non plus un cas isolé, puisque le casque bleu avait reçu le soutien d'une dizaine de ses camarades pour mener une petite mutinerie contre la hiérarchie depuis mercredi soir. Les mêmes militaires se plaignent également des conditions de vie et de travail dans le nord du Mali, mécontentement manifesté il y a quelques semaines. La source anonyme citée par l'AFP précise que le soldat mutin a été maîtrisé et sera transféré aujourd'hui à Bamako, mais sans détail sur son renvoi éventuel au Tchad. Une dizaine d'autres soldats ont été arrêtés pour indiscipline. Le contingent tchadien est le troisième en nombre de la MINUSMA. En septembre 2013 et en novembre 2014, des soldats tchadiens mécontents et se réclamant des arriérés de soldes avaient abandonné leur position en signe de protestation.
Au Portugal, le vice-président angolais Manuel Vicente est mis en cause dans une enquête pour corruption à l'encontre d'un magistrat, a appris hier l'AFP. Le procureur portugais Rolando Figueira est soupçonné par les autorités judiciaires d'avoir reçu des pots de vin afin de classer une enquête impliquant le dirigeant angolais.
L'Éthiopie accuse l'Érythrée d'être derrière les manifestations antigouvernementales déclenchées en novembre 2015 dans la région de l'Oromia. Le gouvernement d'Addis Abeba avait violemment réprimé ces manifestations, causant plus de 140 morts et des milliers d'arrestations selon Human Rights Watch. Le point avec Eddie Isango.
Addis Abeba soutient détenir des preuves selon lesquelles les instigateurs des violences dans certaines localités de l'Arsi occidentale venaient d'Asmara, capitale érythréenne. Les porte-parole du gouvernement éthiopien, Getachew Reda, a accusé l'Érythrée de travailler des concerts avec deux mouvements éthiopiens, les Fonds de Libération Oromo, OLF, un groupe rebelle et Genbot 7, un groupe d'opposition exilé aux États-Unis et qualifié de terroristes par Addis Abeba. Ils veulent infiltrer des fauteurs de troubles en Éthiopie, a dit les porte-parole du gouvernement éthiopien. Selon un bilan des Human Rights Watch, plus de 140 personnes ont été tuées et des milliers d'autres arrêtées lors de la répression brutale et massive des manifestations par les autorités éthiopiennes en novembre dernier dans l'Oromia. Des manifestants protestaient contre un plan gouvernemental d'urbanisme visant l'expansion d'Addis Abeba, capitale éthiopienne. Ces masterplans, finalement abandonnés le 12 janvier, suscitaient des craintes d'expropriation des fermiers Oromo, les plus importants groupes ethniques du pays.
Le Maroc a annoncé jeudi la suspension de tout contact avec l'Union européenne pour protester contre une décision de la justice invalidant un accord agricole conclu avec le Royaume au motif qu'il s'appliquait aussi au Sahara occidental.
En Libye, les autorités internationalement reconnues ont démenti hier soir toute présence étrangère dans des combats à Benghazi, alors que le gouvernement de Tripoli non reconnu affirmait la veille que des forces spéciales françaises dirigeaient les combats à Benghazi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, échec à Bruxelles de la rencontre des pays de l'Union européenne, censée aboutir à une meilleure gestion de l'afflux de réfugiés, alors qu'une crise humanitaire n'est plus à exclure. Les explications de Jean-Roger Bion.
Les tensions sont de plus en plus vives entre les pays de l'Union européenne. La Grèce est accusée par certains pays, dont l'Autriche, de ne pas protéger assez ses frontières contre l'arrivée des migrants. La Grèce n'acceptera pas de devenir le Liban de l'Europe, a averti le ministre grec Yanis Mousalas, les réfugiés syriens représentant désormais le quart de la population du pays du Cèdre. La Grèce se sent en effet de plus en plus livrée à elle-même. Depuis début janvier, plus de 102 000 migrants ont ainsi gagné ce pays par la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. La Grèce est d'autant plus débordée que le plan de répartition des demandeurs d'asile arrivés sur son sol dans d'autres pays européens peine toujours à être mis en œuvre. Moins de 600 réfugiés ont été relocalisés à partir de l'Italie et de la Grèce ces derniers mois sur les 160 000 qui doivent l'être en deux ans. Et la décision de la Macédoine de refuser le passage aux Afghans à sa frontière avec la Grèce et d'exiger des Syriens et des Irakiens des papiers d'identité a alourdi la tâche des Grecs et plongé dans le désarroi des migrants déboussolés.
En Turquie, deux journalistes du journal Cumhuriyet, incarcérés pour avoir fait état de livraison d'armes à Ankara, d'Ankara à des rebelles islamistes en Syrie, ont été remis en liberté suite à une décision de la Cour constitutionnelle dénonçant la violation de leurs droits.
En Iran, quelques 55 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour un double scrutin vital pour la poursuite de la politique d'ouverture du président modéré Hassan Rouhani, qui espère renforcer son pouvoir face aux conservateurs. Ces élections sont les premières depuis l'accord historique sur le nucléaire iranien, qui doit permettre à la République islamique de sortir de son isolement et de relancer son économie, affaiblie par près de 10 ans de sanctions internationales.
Nouvelle fusillade ici aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu hier, tuant 3 personnes et blessant 14 autres dans les locaux de l'entreprise où il a travaillé à Easton, au Kansas. Le tireur a été abattu par la police.
Et politique américaine, le 10e débat entre les candidats républicains à l'investiture a eu lieu hier soir à Houston, au Texas. Le mania de l'immobilier Donald Trump a été la cible de vives attaques sur l'immigration. Ses rivaux républicains, Ted Cruz et Marco Rubio en tête, l'accusant d'hypocrisie et d'incohérence. Trump, qui fait la course en tête dans le camp républicain, a une nouvelle fois martelé sa volonté de construire un mur à la frontière avec le Mexique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait adopter des sanctions sans précédent contre Pyongyang en réponse à son essai nucléaire début janvier, exigeant notamment pour la première fois l'inspection systématique des cargaisons en provenance ou à destination de la Corée du Nord. La résolution proposée par Washington et âprement négociée par Pékin, seul allié de Pyongyang, sera examinée à la loupe par la Russie. Coup d'œil œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco, ce matin avec Anastasie Tudiech.
En Côte d'Ivoire, seuls 4% des terres agricoles sont enregistrées avec un titre de propriété. Le reste est régi par le système coutumier. Une situation qui entraîne conflits et litiges fonciers, selon le cabinet Audace Institut Afrique, qui a publié une étude sur le sujet hier à Abidjan. Selon la même étude, la Côte d'Ivoire, puissance agricole régionale, serait encore plus riche si ses terres étaient immatriculées. Pour le cabinet, la contractualisation est une base de sécurisation idéale des terres entre l'exploitant et le propriétaire, une sorte de cadastre villageois. Selon le ministère de l'Agriculture ivoirien, l'agriculture représente 24% du produit intérieur brut et 2/3 de la population active vit de l'agriculture ou d'activités liées à l'exploitation de la terre. Le flou dans le domaine foncier est à l'origine de fortes tensions et de violences depuis des années, notamment dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, grande région productrice de cacao. La société marocaine productrice d'engrais OCP a annoncé hier la création de sa filiale OCP Africa qui fournira aux agriculteurs africains produits et services. OCP Africa se fixe un objectif de 240 salariés d'ici un an et une quinzaine de filiales. Selon nos confrères de Jeune Afrique, les banques implantées au Congo ont distribué en 2015 des crédits de près de 1200 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a révélé le ministre congolais des Finances et du Portefeuille Public. Le ministre a également déploré par ailleurs, malgré les avancées, le faible taux de bancarisation qui est tout de même passé de 3% en 2007 à 13% aujourd'hui.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie. Et maintenant, place à notre page sport avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric, et nous parlons football ce matin. FIFA, une élection en terrain miné.
9 mois dans la tempête, l'image de la FIFA a été écornée et restée embourbée dans la pire crise de son histoire sur fond de soupçons de corruption. Dans le vote d'aujourd'hui, 2 têtes d'affiche, Infantino et Salman, se démarquent du club des 5 candidats en lice.
Mais quel est le mode de scrutin de l'élection du président de la FIFA?
Le président est élu par le congrès de la FIFA pour une période de 4 ans. L'élection se fait à bulletin secret. Le corps électoral est composé de 209 fédérations membres, voire 207. Si l'Indonésie et le Koweït sont privés de vote aujourd'hui, comme attendu, le comité exécutif de la FIFA a recommandé mercredi au congrès de reporter au mois de mai l'examen de leur suspension. Chaque fédération a une voix. Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir les 2/3 des suffrages des membres présents et ayant le droit de vote. Pour le second tour et les éventuels tours suivants, la majorité simple, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages valablement exprimés, est suffisante.
UEFA Villar, aucun doute sur l'innocence de Platini.
Angel Maria Villal, président senior de l'UEFA, a indiqué hier qu'il n'avait aucun doute sur l'innocence de Michel Platini au lendemain de la confirmation de la suspension du Français jusqu'ici à la tête du football européen.
Transfert controversé au Barça, la mère de Neymar dit ne pas connaître les détails de l'opération.
La mère de Neymar a été entendue hier par un juge à Madrid en charge de l'enquête sur les irrégularités ayant entaché le transfert de la star brésilienne au Barça en 2013 sans avoir apporté de nouveaux détails sur l'opération.
Football, le Barça et l'UNICEF reste lié jusqu'en 2020.
Oui, clair, le FC Barcelone a renoué jusqu'en 2020 le partenariat qui le liait au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le club catalan va faire un don de 2 millions d'euros annuels à l'agence consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants.
Et puis parlons de tennis. Avec le tournoi de Dubaï, Novak Djokovic abandonne en quart après 17 finales consécutives.
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été contraint à l'abandon face à l'Espagnol Feliciano Lopez en quart de finale du tournoi de Dubaï hier, mettant ainsi un terme à une série de 17 finales consécutives. Enfin avec toi Claire, les résultats de la NBA.
Tout à fait Eric, 6 matchs se sont déroulés la nuit dernière sur les parquets américains. Et pas des moindres, puisque 2 des meilleures équipes, Portland et Houston, se sont affrontées dans l'espoir d'une qualification pour les playoffs. playoffs. Et c'est Houston qui l'emporte, 119 à 105. Parmi les autres rencontres, Orlando Magic s'est fait battre par les Golden State Warriors, 114 à 130. Les Celtics de Boston ont triomphé des Bucks de Milwaukee, 112 à 107. Les Pelicans de New Orleans ont maîtrisé les Thunder d'Oklahoma City, 123 à 119. Les Suns de Phoenix se sont inclinés face aux Brooklyn Nets, 106 à 116. Enfin, les Spurs de San Antonio sont venus à bout des Jazz de l'Utah, 96 à 78.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morin Gibourg, toujours avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Nouvelle escale au Niger avec la seconde partie de notre reportage consacré au bouleversement de la religion musulmane dans ce pays qui est musulman à 98%. Décryptage ce matin du mouvement Izala présent dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Reportage à Niamey de notre envoyé spécial Nicolas Pinot.
Difficile de dire combien ils sont, certains les qualifient de sectes. Une chose est sûre, le mouvement Izala ne passe pas inaperçu au Niger. Fondée dans le nord du Nigeria, la société de renoncement à l'innovation et pour le rétablissement de la Sunna a été fondée par Cheikh Ismaïla Idriss. Pour mieux comprendre qui ils sont, écoutons Abdoulaye Sunay, chercheur au Centrum Moderner Orient de Berlin et spécialiste de l'islam au Niger.
Izala, donc, c'est ce mouvement de réforme islamique qui est essentiellement anti-soufi et anti-traditionaliste, qui voulait réformer l'islam, limiter la pratique de l'islam et sa théologie juste au Coran et à la tradition du prophète Mohammed. Bien, quand cet agent religieux-là émergeait, ça a créé beaucoup de problèmes.
De fait, l'islam traditionnel au Niger a été concurrencé par le mouvement Izala. Les deux courants cohabitent sans être d'accord sur tout, comme l'explique Boubacar Seydou Touré, le secrétaire général de l'Association islamique du Niger.
Les Izala, on les voit, mais c'est la même islam. Tout simplement, Izala disent qu'il ne peut pas avoir d'innovation dans la religion islamique. Nous disons du non. On peut avoir une innovation. Quand vous prenez le Coran, on l'adapte à chaque situation et à chaque temps.
Adamou Abdourahman, lui, ne se reconnaît pas du mouvement Izala. Pour le président du bureau exécutif national de l'Association des étudiants musulmans nigériens, le pays ne serait pas plus conservateur qu'avant. Dénonçant les stigmatisations dans ce débat théologique, le jeune homme répond à ses détracteurs.
Aucunement, pas du moment où le Niger a toujours été un pays musulman. Ce n'est pas maintenant qu'on vient nous apprendre l'islam ou qu'on vient nous changer notre façon de faire l'islam, soit du wahhabisme ou pas. C'est la pratique de l'islam. Aujourd'hui, si c'est le fait de porter le voile qu'on considère être du wahhabisme, mais le fait de porter le voile, ce n'est pas quelque chose qui est hors religion islamique. C'est quelque chose qui est bel et bien depuis le Coran. Ou bien c'est le fait aujourd'hui que les gens ont une tendance à être beaucoup plus religieux, à fréquenter les mosquées. C'est ça qui vous appelle le wahhabisme.
Pourtant, certains chercheurs estiment que le mouvement Izala, ou plus généralement le conservatisme religieux, aurait déjà gagné la bataille des idées en influençant le discours politique. Jean-Pierre-Olivier de Sardan, socio-anthropologue à l'ASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local de Niamey.
Alors ça, la politique du pouvoir actuel ne diffère pas de celle de l'opposition ou des autres précédents. Chacun est fait assaut de religiosité. Justement, sous cette pression isaliste, il faut montrer qu'on est un homme pieux, on est un bon musulman. Le président, dans son discours d'investiture, avait dit qu'il voulait gouverner conformément au premier calife. Ce qui est paradoxal pour un État laïque et lui-même se revendiquer de l'international socialiste. Donc vous voyez, lui-même était obligé de donner des gages pour être bien vu et apparaître comme un bon musulman.
C'est dans ce contexte que le pays a connu il y a un an une explosion de violence autour de Charlie Hebdo. Mais nous en reparlerons lundi matin dans le prochain volet de cette série. Nicolas Pinot, Niamey, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
C'est par les alliances stratégiques que l'Afrique avancera dans son développement. Telle est la vision du forum Africalia, dont la quatrième édition s'est ouverte mercredi matin à Ouagadougou. Plus de 400 entreprises issues des quatre coins du monde participent à ce forum qui allie, durant 48 heures, réseautage et réflexion autour de la problématique de l'énergie en Afrique. De Ouagadougou, la correspondance d'Issa Napon.
Et de quatre pour ce forum qui a gagné son pari de réunir encore une fois, et ce, malgré les événements dramatiques que le Burkina a vécu il y a quelques semaines, 450 participants venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie principalement, avec un même objectif, nouer des partenariats gagnant-gagnant et prospecter des domaines d'investissement. Adama Traoré, membre de la délégation spéciale de la Chambre de commerce burkinabé.
Une plateforme qui permet à des hommes d'affaires de se rencontrer à travers des rencontres B2B sur la base de besoins réellement exprimé. C'est une des forces d'Africalia. Donc, avant de venir, vous avez choisi des gens que vous souhaitez rencontrer et des gens ont choisi de vous rencontrer. Et vous êtes sûr d'atteindre les résultats auxquels vous attendez.
La présence d'un important nombre d'investisseurs réjouit le Premier ministre burkinabé, Paul Kabatieba.
Africalia attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, ce qui est bien pour l'économie nationale. Parce que ce sont des entreprises privées qui créent la richesse, qui créent l'emploi. Et ce que nous devons poursuivre, faire en sorte que l'environnement des affaires chez nous soit attractif. Alors, c'est un ensemble de facteurs qui sont mesurés par l'indicateur Doing Business. Je prends l'engagement de faire en sorte que d'ici un an, le Burkina Faso soit dans le top 10 des pays africains.
Africalia a toujours accouché de partenariats suivis, rassure François Villain. Elle est la déléguée générale de Futuralia, forum d'affaires français de Poitiers.
Habituellement, sur 6000 rendez-vous, 80% donnent lieu à des échanges ultérieurs. La majorité des contacts sont des contacts commerciaux. Ça, c'est les partenariats les plus fréquents. Mais on a aussi beaucoup de partenariats techniques, concevoir ensemble un produit, des partenariats financiers. L'intérêt d'Africalia, comme de Futuralia, c'est le même produit en fait, c'est d'être multisectoriel.
L'énergie est le thème qui focalise l'attention des participants. Un problème énergétique encore plus accru en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso, où l'État fait face à de réelles difficultés de fourniture en électricité, reconnaît le Premier ministre burkinabé.
Nous avons un coût de l'énergie qui est trop élevé. Nous sommes dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les pays là où le coût de l'énergie électrique est le plus élevé. Ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'on travaille en développant par exemple le solaire, à faire en sorte que le coût moyen du kilowattheure de l'énergie soit bas et que ça puisse attirer donc plus d'investisseurs étrangers. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui, pour encourager les hommes d'affaires qui sont venus en dépit d'un environnement régional et puis national qui a pu être perturbé par les attentats, les rassurer. C'est la volonté du gouvernement de créer un cadre, un environnement qui leur permet de faire des affaires.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Thomas Shannon, sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires politiques, a effectué une visite de 2 jours au Mali. Renforcement du mandat de la MINUSMA, lutte contre le terrorisme ainsi que l'appui du gouvernement américain ont été au centre de ces discussions avec les membres du gouvernement mais aussi avec la société civile. Notre correspondant Kassim Traoré a pu assister au point de presse de Thomas Shannon juste avant qu'il ne rencontre le président malien à Koulouba.
C'est le 12 février 2016 que Thomas A. Shannon a été confirmé au poste de sous-secrétaire d'État des affaires politiques. C'est ainsi qu'il a entamé une tournée au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Le Mali a été choisi comme sa première étape.
Le fait que je visite le Mali soit l'une de mes premières étapes depuis ma confirmation et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques montre l'importance que je porte pour le Mali. L'objectif de ma visite, c'est souligner mon engagement envers le Mali et l'importance du Mali et pour souligner notre attachement à la sécurité et au développement social du Mali.
Parlant du rôle des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur Thomas dira que tout n'est pas de prendre les armes dans cette lutte.
Je pense que nous sommes très présents pourtant parce que vous devez comprendre que la lutte globale contre le terrorisme ne comprend pas que la composante sécuritaire. Il y a les aspects économiques et sociaux aussi, et également renforcer la capacité de l'État à gouverner, renforcer également la capacité de la justice à administrer la justice convenablement. Et si vous regardez au rôle des États-Unis lors de ces dernières années, c'est impressionnant ce que nous avons fait.
Les Américains aident le Mali dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Pour ce qui est de la question, faudra-t-il négocier avec le terroriste malien Yada Garli? L'ambassadeur Thomas A. Shannon répond.
Ce ne serait pas de ma part de répondre à quelqu'un.
quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Donc ce serait pas bon de notre part de parler de quelque chose, d'une action de la part des États-Unis sur quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Nous avons un grand respect pour le président. En ce mois, il fait face à des défis énormes concernant la mise en œuvre de l'accord et nous voulons pouvoir aider autant que nous pouvons.
Les États-Unis vont aider le Mali. D'ailleurs, le soutien américain n'a jamais fait de faux. Mais pour ce qui est de la paix au Mali, elle est avant tout l'affaire de tous les Maliens, a dit le diplomate américain.
Le Mali est un grand pays et le Mali existe bien longtemps avant les États-Unis. Et le Mali a montré au cours des siècles une capacité d'arriver au succès. Et il a montré aussi qu'elle est une nation résiliente. Ce que nous faisons, c'est d'aider et c'est aux Maliens de mettre en œuvre la paix, l'accord de paix.
Thomas A. Shannon a été reçu par le président de la République du Mali au palais de Koulouba. Il a été question de bonne gouvernance, la lutte contre le terrorisme et la réaffirmation du soutien américain au peuple malien. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Les stars du cinéma continuent d'arriver à Hollywood pour la cérémonie annuelle des Oscars prévue dimanche. Le manque de diversité dans la liste des nominés de cette année a été beaucoup critiqué, d'autant plus que, sous un autre angle, l'industrie cinématographique peut être plus diverse que ne le laissent croire les Oscars. Plus de détails avec Michel Joseph.
L'actrice et la réalisatrice d'origine camerounaise, Constance Ejuma, est venue à Hollywood pour montrer son film Ben et Ara. Ce film n'est pas en compétition à Hollywood, mais c'est une histoire d'amour complexe qui aborde plusieurs thèmes, explique Ejuma.
Interracial, interculturel, interreligieux, les gens peuvent se retrouver dans l'un des trois thèmes ou dans l'ensemble. C'est un film pertinent pour notre époque.
Ben et Ara, c'est l'histoire de deux diplômés d'université, d'un athée et l'autre musulmane. Le film explore leurs relations, leur foi, leur famille et les tensions culturelles. Le Nigéro-Britannique Tony Okungboa, lui, est acteur et réalisateur du film Echo Parks, un drame romantique se déroulant dans un quartier en pleine mutation de Los Angeles et qui, souligne-t-il, traite des questions universelles de l'amour et des conflits.
Je veux que l'histoire soit la part la plus importante et que les acteurs puissent être interchangeables dans chaque culture.
Tout le monde se rappelle Selma, le drame historique de 2014, retraçant l'histoire du leader américain des droits civiques, Martin Luther King. Ce film a remporté un Oscar pour sa chanson originale « Glory ». Sa réalisatrice, Ava DuVernay, s'est chargée de distribuer le film d'Okungboa à travers un réseau qu'elle a fondé. Étant réalisatrice africaine-américaine et femme, DuVernay est une rareté à Hollywood.
Ladies and gentlemen, the Academy Awards nominees, class of 2015.
Cette année, les nominés des Oscars sont, à une écrasante majorité, des Blancs. Le problème est qu'il n'y a pas assez de films tournés avec une diversité de personnages, estime Tony Okungboa. Le financement et la distribution restent problématiques, mais de plus en plus de films d'Hollywood sont réalisés par des cinéastes internationaux et ceux issus de minorités. Il revient à ces acteurs et réalisateurs de continuer de travailler avec sérieux, souligne Constance Ejuma.
Je pense que nous avons la responsabilité pour les personnes de ma position de continuer à raconter nos histoires, que nous ayons ou pas le soutien du grand monde du cinéma pour les promouvoir.
Pour ces cinéastes, des cérémonies comme celle des Oscars ont du rattrapage à faire pour refléter la diversité déjà présente au sein de l'industrie cinématographique.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory.
Hands to the heavens, no man, no weapon.
warned against. Yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down and we stand up.
Et c'est au son de Glory, morceau composé par le rappeur Common et John Legend pour le film Selma. Morceau qui avait remporté l'Oscar de la meilleure musique de film l'année dernière, que nous clôturons cette édition. Anne Alberson était à la réalisation, Wojtek Journiak était à la console, présentation Claire Morin-Gibour et Anne Alberson. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24h sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.